Je vais enchaîner pour essayer de planter un petit peu quelques éléments de contexte aussi sur plus sur la partie normande et caennaise. Je vous présente un petit peu les premiers résultats, on va dire, de mes travaux sur cette scène punk normande et aujourd'hui caennaise, pour essayer de comprendre un petit peu par rapport aussi ce qui a été dit auparavant sur la légitimité à faire cette histoire et à essayer de l'écrire avec surtout les acteurs du terrain, hein, et notamment grâce à leurs archives, hein. Pour vous dire l'étendue du travail, c'est que pour l'instant, il n'y a rien eu d'écrit sur l'histoire de cette scène en Normandie et qui plus est à Caen. Donc, il y a quand même tout un travail à effectuer. Alors, ce travail, il s'est basé d'abord sur le témoignage des acteurs, hein. J'ai pu rencontrer déjà une vingtaine d'acteurs qui, bien évidemment, au-delà du témoignage, ont pu aussi me prêter leurs archives. J'ai rencontré Momo la semaine dernière et il m'a prêté 300 voire 400 photos de concert, quoi, de ces trois groupes. C'est quand même des cadeaux importants pour l'historien. Mes travaux vont aussi se baser sur les archives, hein. Donc il y a la presse régionale et locale qui, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui va aussi être un facteur aussi de diffusion de cette culture punk à Caen. Un peu de presse spécialisée, Rock and Folk ou Besque, où il y a quelques articles, mais ça reste très rare. Les archives audiovisuelles, pour avoir visionné, par exemple, toutes les émissions de Rockin' Chair et de Décibel, hein, qui sont à l'INA. Les archives privées, bien évidemment, des acteurs, hein. Ça peut être soit des affiches de concerts, des photos, des sets, etc., etc. Et puis, je me suis aussi servi de certains sites internet qui commencent déjà, on va dire, à recueillir quelques archives. Alors, sur Caen, c'est les Tataves, hein, où il y a quand même un certain nombre de photos et de réactions, c'est ce qui est intéressant, puisque ce sont des acteurs qui peuvent répondre des fois quand on met une photo. La tête dans le cul, ça c'est le site de Rodolphe avec déjà un premier travail sur cette histoire un petit peu du punk. Alors Psycart, qui recense un peu les groupes normands, alors, et puis les 40 ceintures de rock normands. Alors après, sur le côté un peu plus normand, il y a Rockin' Le Havre, qui est vraiment sur Le Havre. Et sur Rouen, c'est Rouen l'explosion rock, pardon, qui est le site de Claude Levieux. Donc, ce qui veut dire que si on élargit à la Normandie, voilà, il y a déjà un travail de collecte et d'archives qui est mené déjà sur ces trois sites, hein, qui sont très bien déjà documentés. Et donc voilà, c'est des supports aussi pour l'historien. Donc le but là, rapidement, c'est d'essayer d'expliquer un petit peu comment le punk va arriver à Caen et essayer de placer des contextes un petit peu, on va dire, structurels, pour comprendre comment ce territoire normand, et spécialement la région caennaise, va aussi s'ouvrir à cette nouvelle culture punk. Donc, il faut essayer de refaire aussi un petit tour dans le passé, on va dire avant 76-77, pour comprendre que déjà, le territoire normand, c'est un territoire qui est marqué par l'influence, alors anglaise, mais surtout américaine, depuis le débarquement et puis aussi depuis la présence américaine dans des bases de l'armée, notamment celle d'Evreux. Mais il y a aussi des cérémonies pour le débarquement. Donc forcément, les jeunes GI, voilà, qui ont débarqué, ils amènent aussi leur culture tous les ans, etc. Donc il y a des liens qui se font avec la population locale. Donc il y a une espèce d'acculturation un petit peu à cette musique américaine, hein. Après, ça va être Elvis, ça va être le rock'n'roll, etc. Mais le territoire, voilà, il est influencé par cette présence. Si on prend Caen, Caen, c'est quoi avant, on va dire, avant 75-76? Il y a la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, qui est très vivace, donc c'est une ville martyre. Et c'est pas un hasard si certains groupes reprendront un petit peu cette influence de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, de la collaboration, etc. Je pense aux Spurs, par exemple. C'est une ville, voilà, 120 000 habitants, avec bon, une ville plutôt UDF, mais aussi entourée de bastions socialistes, hein, donc Hérouville, où il y aura la MJC, Colombelle, Mondeville. C'est aussi une région qui, 75-76, est déjà en déclin du chômage, notamment via la SMN. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est la frange giscardienne, etc. Et c'est aussi une ville étudiante et lycéenne, et où, voilà, c'est une ville qui sera touchée aussi par les manifestations de 73, hein, sur la loi Debray. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mouvements qui s'organisent. Et donc, c'est dans ce contexte qu'au niveau musical, il va se passer des choses. Alors, doucement, hein, mais il y a déjà des groupes de rock, voilà, des groupes de rock and roll, des vieux groupes de rock and roll. Hein. Je vous ai mis quelques exemples, hein, les Jets, les Raiders, il y a même les Sonics, les Mustangs, les Caves. Hein, donc, des groupes vraiment de rock and roll influence très américaine. Hein. Donc, ils font des concerts, etc. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres groupes qui sont plutôt blues rock. Alors il y a le Chaos Rampant, ça, si vous avez des informations sur ce groupe-là, je suis preneur. Split, il y a Jean-Loup et Manivelle, hein. Les Alligators, voilà, plutôt rockabilly. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des groupes locaux qui se montent. Alors bien évidemment, les concerts restent rares, mais c'est plutôt une prédominance, surtout quand on regarde un petit peu la presse, du folk, de la prog et de la variété. Voilà, le nombre d'orchestres et de balles qui pullulent. Donc voilà, mais il y a quand même ce processus qui se met en place. Alors il y a quelques concerts. Alors je vous ai mis ceux du Havre parce que ça a pu marquer aussi ceux qui ont pu s'y rendre. Alors je sais bien que c'est compliqué en 76 ou 75 de se rendre de Caen à Rouen, au Havre. Mais voilà, ça veut dire que le territoire normand, il est aussi influencé. Voilà, donc il y a Dr. Feelgood, il y a Eddie and the Hot Rods et Flaming Groovies, voilà, jusqu'en 76. À Caen ou à Lisieux, il y a quelques concerts parce que il y a les MJC, il y a Little Bob Story qui est le groupe phare, voilà, qui tourne depuis 73-74, donc il vient quand même, voilà, il vient jouer à la MJC de Lisieux, hein, il fait 200 personnes, voilà, qui est quand même un record pour Lisieux. Il y a même T-Rex qui vient jouer à Troarn, donc un village juste à côté. Il y a Lavilliers qui vient, il y a Johnny, il y a les vedettes. Bon, il y a des choses qui se passent. Bon, c'est pas du punk, hein, mais voilà, ça veut dire qu'il y a quand même des. On peut, la jeunesse, on va dire, cannaise, on pourra en reparler avec la table ronde, s'ils ont participé ou ils ont été voir ces concerts, mais bon, il y a peut-être des choses qui se passent, même si c'est difficile. Mais c'est dans ce contexte, voilà, que. Voilà, donc je vous ai mis quelques photos. Donc voilà les premiers groupes. De rock'n'roll, hein. Donc les Sonics, les Vikings, les Jets, donc voilà, on est vraiment dans les yéyés. Hein. Voilà le concert de T-Rex à Troarn, hein, en haut, et Little Bob Story en dessous à la MJC d'Izieux en 1975. Autre concert, alors je vous ai mis Split, là c'est pareil à la MJC. De Lisieux, il y a les Alligators au Sirenas, qui est une boîte de nuit sur la côte, et Jean-Loup et Manivelle, hein, à la MJC. Alors, je ne sais pas si c'est toi, Jean-Loup, avec la moustache, mais... Non ? Bon, c'est peut-être... Donc, voilà. Bon. Mais j'ai d'autres photos. En tout cas, bon, c'était à Lisieux, tu as joué à Lisieux. Donc, l'apparition du punk. Alors, l'objectif, c'est de vous montrer ici quels ont pu être, par rapport au travail que j'ai mené, les facteurs qui ont participé à cette diffusion et à cette apparition du punk. Vous voyez, donc, il y a un terreau un peu rock, blues qui existe. Il y a quelques salles, il y a quelques concerts. Mais bon, on va dire que la rupture, voilà, avec l'apparition du punk, et là on pourra en parler par exemple avec Alain avec Bye Bye Turbin. Donc comment voilà ces nouveaux groupes vont s'afficher aussi dans dans l'environnement musical ambiant canné, hein, qui est plutôt blues, rock, etc. Donc l'apparition du punk, il est surtout un des facteurs clés qu'on retrouve aussi bien à Caen ou en Normandie, hein, c'est le rôle des disquaires. Et alors en Normandie vous avez deux, voilà, deux disquaires au Havre et à Rouen, donc Crazy Little Thing au Havre et Melody Massacre à Rouen, bon, qui vont jouer un rôle essentiel dans ces deux villes-là. À Caen, vous avez, on va dire, deux grands magasins de disques. Le plus ancien, alors pareil, si vous avez des infos sur ce magasin, puisque je n'en trouve pas beaucoup, sur Sweet Harmony, qui est le premier magasin qui est rue Pierre et Meller, qui est en face des Galeries Lafayette aujourd'hui. Et pourquoi c'est, et ensuite le domaine du disque, hein. Puis après il y en aura d'autres, hein, bien évidemment. Mais c'est disquaire, voilà, le rôle fondamental, c'est que, alors pour certains, ils vont produire et diffuser les 45 tours de groupes locaux. Sweet Harmony va produire et diffuser, alors je ne sais pas s'il produit exactement, mais les Alligators. Bon, ce n'est pas du punk, c'est du rockabilly. Mais ils vont aussi produire et diffuser, alors je ne sais pas si c'est plutôt Melody Massacre qui produit, mais qui diffuse Sweet Harmony, le 45 tours de Bye Bye Turbin, enfin les deux de Bye Bye Turbin, celui de Checkmate en 1979. Donc voilà, ils participent aussi à la visibilité de ces nouveaux groupes qui arrivent en leur permettant de s'afficher, de diffuser un 45 tours. C'est aussi un lieu où on va découvrir des nouveautés musicales, puisque souvent ces disquaires sont à la recherche un petit peu de ce qui peut se passer à l'étranger, c'est-à-dire aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Et donc, avec les imports, eh bien, on fait découvrir à cette jeunesse certains groupes. Pour avoir questionné un certain nombre de personnes. Par exemple, c'est là, à ce moment-là qu'ils vont découvrir les Stooges. Ensuite, ils vont découvrir tout le vintage 60s, les Sonics, etc. Donc voilà, quand vous le disquaire vous dit, voilà, tu devrais écouter ça, ça va te plaire, etc. Voilà, il y a une découverte de cette musique qui permet après d'aller plus loin. Bien évidemment, ensuite, eh ben, il y aura les découvertes plus punk, les Dames, les Clash, etc. Mais voilà, ces lieux sont vraiment des points importants dans la diffusion de cette musique locale, mais aussi du punk au niveau international. Et généralement, donc, ces magasins ont fermé mi-1980, quand ils vont être remplacés notamment par les FNAC, où la proximité ne sera pas du tout la même. Autre point important, c'est les concerts. Alors, j'ai dit punk rock à Caen, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais ça veut dire que cette jeunesse-là, qui a 16-17 ans, qui va s'engager dans l'aventure punk, et pour les plus vieux, qui ont une vingtaine d'années, etc., eh bien, les premiers concerts, on va dire, punk rock, qui s'auto-définissent comme ça, ça peut marquer aussi les esprits, ça peut changer les mentalités, la vie. Alors, Caen, est, par rapport aux deux autres grandes villes normandes, est vraiment le parent pauvre, hein, puisque les principaux concerts d'e-punk se passent au Havre. Pourquoi ? Parce que c'est la porte d'entrée de l'Angleterre. Donc, c'est là qu'on va trouver les Stranglers 77, les Ramones, vous voyez, en avril 77, les Jam, les Dames, Asphalt Jungle. Enfin, ouais, tout une série de concerts qui se déroulent au Havre. À Rouen, il y a moins de salles. Il faudra attendre Studio 44 et l'Exo 7. Mais il y a quand même un concert qui est emblématique, c'est celui des Clash, puisque c'est le premier concert des Clash en France, qui a lieu en avril 1977. Ensuite, il y aura les Stinky Toys, les Saints, les Diens, etc. C'est-à-dire, quand il faut y venir déjà. Donc, il n'y a pas beaucoup forcément de groupes qui vont venir jouer, de groupes punk rock. Hein. Alors, il y aura Star Shooter, il y aura Bijou, les Saints, les Olivenstein, par exemple. Alors, donc, bon. Mais ça peut aussi marquer ces jeunes canets, puisque le problème à Caen, c'est qu'il n'y a pas de salle, d'accord ? Il n'y a pas de salle dédiée à la à cette musique. Alors, je vous en ai mis la plus connue étant le Al Sorel, mais au niveau acoustique, a priori, c'était pas tellement ça. Le Sépulcre, il y aura bien évidemment le lieu emblématique de la scène punk, on va dire cannaise, qui est la MJC d'Hérouville, puisque la MJC va devenir le lieu jusqu'en 1990. D'accord, le lieu où vont se dérouler la majeure partie des concerts punk et concerts rock. Hein. un petit peu à la MJC de Lisieux. Donc là, je suis jusque dans les années, voilà, les années 80, un petit peu après. Hein. Donc voilà, c'est donc des lieux, voilà, de musique, bah, MJC, hein, dédiés à la musique populaire, etc., la culture pour tous. Donc, ces deux, voilà, cet axe Hérouville-Lisieux va permettre à quelques groupes de jouer. On peut en parler avec Alain qui a joué dans à Hérouville un certain nombre de fois. Et il y a aussi alors, le Palace à Cabourg qui s'ouvre en juillet 1979, donc qui est l'antenne du Palace parisien. Alors bon, il y aura quelques concerts fameux. Hein. Bye Bye Turbin y jouera. Il y aura par la suite les Lords of the New Church, etc., les Dogs, etc. Bon, ça reste, bon, ce n'est pas non plus là où se déroulent tous les concerts, mais ça fait une salle en plus et il peut y avoir quelques concerts. Après, il y a des bars, il y a des salles des fêtes, etc. Il y a la fête de la rose, il y a des différentes réunions où on peut jouer. Mais il n'y a pas de salle, on va dire, typique pour cette scène. Troisième grand point, à mon avis, qui est une spécificité même de la Normandie, et ça, j'essaie de mettre en avant, c'est que la proximité géographique avec la Grande-Bretagne a joué un grand rôle dans l'appropriation de cette culture punk en Normandie. Puisque, a priori, le nombre de personnes que j'ai interviewées, si je prends la première génération, hein, ils sont allés au moins une ou deux fois à Londres en 77, 78. Donc ça veut dire que cette proximité géographique, elle offre à ces jeunes musiciens déjà la possibilité, d'écouter la BBC, Radio One. Donc, Momo m'en a parlé, il montait à l'immeuble, à Trouville, hein, pour capter la radio et enregistrer les morceaux qui passaient. Donc, on peut avoir écouté ce qui se passe, d'accord, en Angleterre. C'est aussi les échanges interculturels, les jumelages, etc. Quand vous êtes jumelé en 77 et que vous allez à Londres, vous pouvez peut-être tomber sur des punks. Hein, voilà. Donc forcément, la vision peut changer. Donc il y a les voyages scolaires, il y a les jumelages, les échanges interculturels, etc. Et surtout, c'est ce qui est mis en avant, c'est les liaisons maritimes peu chères. D'accord, ce qui veut dire qu'on peut aller facilement à Londres, enfin facilement, entre guillemets, hein, parce que à mon avis, il faut quand même un petit bout de temps, mais le fait de partir du Havre, de Dieppe, de Cherbourg, puis de Ouistreham, permet, chronologiquement, à différentes époques, d'aller in situ, on va dire, vivre l'expérience punk. Et ça, je poserai la question tout à l'heure, il vous expliquera à Alain, leur fameux voyage à Londres avec les Bye Bye Turbin. Donc, ça permet déjà d'aller écouter des concerts, ça permet d'aller acheter des disques, ça permet de découvrir des nouveautés, etc. Donc ça, forcément, ça va avoir un effet aussi sur cette découverte du punk et l'engagement dans ce mouvement musical. Alors, à partir d'un moment, des groupes vont se former. Alors, je ne développe pas les groupes. Vous pourrez poser des questions, je pourrai des questions. Voilà. Il y a un certain nombre de groupes qui vont apparaître chronologiquement. Hein. Alors là, je vous ai mis deux générations. Chronologiquement, c'est Bye Bye Turbin le premier. Ensuite, vient s'agréger RAS, bon, Canet. Les Végétators, c'est sur Lisieux, mais bon, ils vont être Lisieux et Caen. Laxative 126, Break Up, Brainwash qui va avoir une carrière un peu plus longue. Checkmate, Scumbag qui deviendra Johnny S. Ça, c'est la première génération. D'accord ? Alors, j'ai un peu de son tout à l'heure si vous voulez écouter quelques titres, mais. Donc voilà, il y a quand même, c'est ce noyau qui se forme, qui se connaît, hein, parce que bon, c'est pas très grand non plus. Et donc souvent, on va retrouver par exemple Bye Bye Turbin va beaucoup jouer avec Break Up par exemple. Donc on offre aussi au groupe la possibilité de faire une première partie ou de participer à un festival. Donc voilà, il y a beaucoup de groupes qui joueront ensemble. Là, vous avez vu les affiches, hein, on trouve quand même un certain nombre de groupes qui reviennent à ce moment-là. Donc ça, c'est peut être considéré comme la première vague. Et à partir de là, à partir des années 80, l'après 80, va avoir une seconde vague. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Donc, il y a les Innocents. Alors là, vous avez mis punk ou pas punk. Bon, ça, la définition, on verra. Les Spurs, d'accord. Et Falkland. Donc, groupe, voilà, groupe de Sanerville, espèce de groupe de Caen. Donc là, voilà, il y a ces différents groupes qui vont apparaître. Comment, autre facteur plutôt de diffusion, ben, ça va être les associations et les médias. Donc vous avez différentes associations qui vont essayer de mettre en place ben, des concerts, etc. Alors, la première est l'association Viva Rock'n'Roll, qui est créée par les membres de Bye Bye Turbin. Donc pour organiser leur propre concert, donc ils organiseront j'ai l'image d'un fameux concert au Hall Sorel en mai 78, je crois, avec 4 ou 5 groupes. Donc ça leur permet, voilà, de au nom d'une association, de réaliser ces concerts, parce que c'est pas simple d'avoir une salle, etc., au niveau de sécurité, etc. Donc, vous avez alors là deux associations. Pareil, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations, puisque c'est l'association Ebzebia et puis l'association Canaise pour la promotion musicale dans les années 80 qui vont organiser un certain nombre de concerts. Je sais qu'Ebzebia va faire venir les Sens, va faire venir Marquis de Sade, Star Shooter, etc. Donc voilà, mais j'ai pas trop d'informations sur ces deux associations, mais bon. Dans la presse, on voit bien que c'est ces deux associations qui essaient un petit peu de mettre en place. Alors, c'est des concerts au Hall Sorel, c'est des concerts au Sépulcre. Essayer de programmer au moins quelques groupes, on va dire punk rock. Mais je crois que ça s'arrêtera assez rapidement. Donc, il faudrait voir au niveau des dates. Donc, il y a un mouvement associatif qui se met en place. Alors, bien évidemment, ça va se développer après les années 80, et qui plus est après les années 90. Mais voilà, il y a déjà quand même un monde associatif qui milite pour cette culture. Ensuite, il y a quand même le rôle des médias. Des médias, on va dire, traditionnux. Hein. La presse locale, puisque quand vous lisez, par exemple, Ouest France, vous avez quand même quelques articles, on va dire jusque dans les années 85, vous avez quand même des articles sur les concerts, avec des photos. Donc, Ouest France, quand vous avez... Alors, ce n'est pas régulier non plus, mais vous avez quand même l'annonce de concerts, etc., les noms des groupes, etc. Si vous allez plus sur Lisieux, sur le Pays d'Auge, l'Éveil, vous allez avoir beaucoup de Végétator, parce que c'est vraiment le groupe phare de Lisieux. Donc, mais vous avez quand même des articles de fond qui mettent en avant la musique, etc. Alors ensuite, il y a d'autres types de presse, mais... Ça va être aussi appuyé par quoi ? Par la radio, puisque alors chronologiquement, la première radio est FR3 Radio Normandie, sur la péniche dans le port de Caen, où là, les groupes peuvent venir jouer en direct, être enregistrés, et ensuite, je crois qu'il y a une interview. Donc, c'est ces bandes-là qui ont été reprises aussi par Mémoire Neuve pour diffuser, pour rééditer les enregistrements. Donc, il y a quand même une possibilité d'être écouté. Alors, je ne sais pas quel est au niveau de la réception, mais bon. En tout cas, il y a quelques articles aussi dans la presse. Bien évidemment, ensuite, ça va être l'apparition des radios, on va dire des radios libres. Alors, Radio Quincaille, la plus connue ensuite, Radio UHT. Et ensuite 99 FM qui vont être là vraiment UHT en premier, ensuite 99 dans la diffusion de cette culture punk locale, puisque UHT va quand même éditer deux compilations, d'accord, de groupes cannais avec dedans quelques groupes punk. 99, elle va aussi s'affilier avec cette scène-là et va participer à la diffusion de ces groupes. Et enfin, y a la télé. Qui va aussi prendre le relais avec deux émissions. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de punk à Rockin' Chair. Il y en a eu au moins un, Brainwash. Il y a une vidéo. Il y a la vidéo des Innocents. Il y a eu d'autres groupes aussi. Mais c'est le fait qu'il y ait une émission de télé qui passe sur FR3, alors, je ne sais plus les horaires, et donc permet aussi à ces jeunes groupes de se montrer à la télé. Alors, c'est peut-être plus vrai avec Décibel, puisque Décibel, il y avait aussi des antennes locales, et on pouvait voir dans Décibel, alors Décibel de nuit, quelques reportages sur des groupes punk, mais pas normands, bretons, alsaciens, etc. Mais voilà, ça permettait pour le téléspectateur de voir un petit peu ce qui pouvait se faire dans les années 80. Parce que Décibel, je ne sais plus, c'est 86 ou... Voilà. Donc voilà, il y a quand même deux émissions qui essaient de mettre en avant... Alors, plus généralement la culture rock, mais dedans on peut aussi parler, voilà, de parler du punk. Donc voilà, c'est aussi un média important dans la diffusion de cette culture au niveau local. Vous avez aussi les fanzines, hein, vous avez vu l'affichage qu'a effectué Samuel, donc montrer un petit peu tout ce côté do it yourself, hein, la mise en avant de ces groupes, de cette scène. Il y a Crise avec Baba et Turbin, je crois 78, hein, il y a le premier fanzine, puis voilà, il y en a d'autres. Hein. Et vous avez aussi j'ai mis presse alternative, puisque je l'ai trouvé aux archives, le Croquant, hein, qui apparaît, je crois, début 77, donc qui essaie de mettre en avant un petit peu un discours un peu libertaire, etc., sur la culture. Vous avez Caen Magazine, Le Mohican, qui afficheront quelques références sur ce qui se passe au niveau du rock à Caen. Donc voilà, vous voyez, tout ça, ça participe à cette diffusion. Donc là, pour terminer, je vous mets juste, par exemple, ce qu'on peut trouver dans Ouest-France, sur un groupe, Bye Bye Turbin, je crois que, décembre 77, vous avez peut-être dû faire 3 concerts ou 4 concerts, Alain. Donc, vous voyez une demi-page dans Ouest-France sur un groupe qui est inconnu. Vous voyez ? Donc, ça vous montre Donc, l'intérêt du journaliste pour cette musique, avec un long entretien, un bel article, avec des photos, etc. Donc, voilà. Vous pouvez avoir l'information sur ce fameux concert organisé au Hall Sorel, un rock différent dans une ville indifférente, donc en mai 78, on explique un petit peu pourquoi, etc. Et par exemple, le premier article sur les Végétators dans le Pays d'Auge, donc vous voyez, le 30 mai 78, le groupe, il a 2 ou 3 mois de vie, et donc on met en avant ce qu'il fait, etc. Vous voyez, ils reprennent du Sex Pistols, le rock n'est pas mort. Enfin, vous voyez, il y a quand même des articles qui mettent en avant cette musique, d'accord, dans un paysage qui est un peu différent, parce que les Végétators, ça lisieux, c'est une nouveauté, ça crie, ça hurle, etc. Donc forcément, le public n'est pas habitué, et encore moins les journalistes. Donc on essaie de mettre en avant et de valoriser cette nouvelle scène qui apparaît. Là, je vous ai mis la péniche où on pouvait enregistrer. Alors là, ce n'est pas une photo de Caen, c'est une photo d'un vieux groupe de Pont-Audemer qui s'appelle Action Joe, donc qui est venu enregistrer. Et puis, évidemment, UHT et 99FM qui viendra à la Radio Rock. Et ensuite, pour terminer, ce qu'on trouve dans la presse dans l'Ouest-France, une affiche qui recherche des groupes de rock pour passer dans une émission. Donc ça sera Rockin' Chair par la suite. Pour terminer, essayer de poser un petit peu les bases de ce qu'a pu être ce développement et cette apparition de cette première et deuxième vague à Caen. Bien évidemment, sur les éléments et les facteurs, on va les retrouver par la suite dans les années 90 et les années 2000, bien encore plus. Les disquaires sont toujours présents, la presse, les fanzines, etc. Mais pour montrer qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui ont permis à ce mouvement punk de naître, de se diffuser, comme on a dit, mais sous d'autres formes. Bien évidemment, le punk originel aujourd'hui, il est transformé, il est remanié, etc. Pour montrer qu'à Caen, cette scène, elle existe toujours. On en reparlera cet après-midi et même de la troisième table sur les années 2000. Elle est toujours présente sous d'autres formes, avec d'autres personnes. Mais pour montrer que depuis, 77, ça s'est transformé et que Caen n'a pas à rougir par rapport à Rouen ou au Havre ou même à d'autres capitales, puisqu'on trouve, si on prend Baba et Turbin, c'est bien avant, par exemple, les Olivenstein. On fait tout un foin avec les Olivenstein. Des fois, peut-être rétablir un petit peu la vérité sur les chronologies. Donc, maintenant, ce que je vous invite, si vous avez des questions, je suis ouvert, mais sinon, l'objectif, c'est aussi de... il restera à peu près une heure, c'est d'inviter nos témoins qui vont essayer d'illustrer un petit peu tout ce que j'ai dit, si je n'ai pas dit trop de conneries.